Aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle artiste de la scène musicale française. Elle s'appelle Sab et vous avez déjà pu la découvrir avec un titre qui a cartonné cet été. 6 milliards, c'est une reprise du chanteur Hussard. Alors, c'est inspiré de nombreuses sonorités pop-rock. Elle vient nous présenter son nouveau titre On se bat. On retracera ensemble son parcours. On va parler de son prochain EP prévu pour février 2025. Et on finira par se demander « Et demain ?»
Et demain, avec Constance Vercamer, le podcast des artistes de la chanson française de demain.
Bonjour Sab.
Salut.
On écoute ton nouveau titre qui s'appelle On se bat et puis après on revient pour découvrir ton parcours.
On se bat dans le vide et ça nous fait du mal. On tire sur notre amour avec des vraies balles.
Si j'ai l'air un peu de travers, d'être un peu là et un peu à l'envers. Si j'ai l'air d'en avoir rien à faire. Je sais pas ce que ça me coûte quand j'ai d'autres, rien à voir avec nous deux. Je fais tout ce que je peux pour tenter de faire mieux. Quand je fais au mieux pour toi, ça sonne creux. Je sais même pas si tu sais ce que tu veux. Et on tourne en rond. Et ça fait tourbillon. Et tu me demandes pardon. Et je te dirai que c'est bon. Et je te dirai que c'est con qu'on en arrive là. On s'écoute au fond. On se rattrape à chaque fois. Et ça devient blessant. Tu comprends pas. On se bat dans le vide et ça nous fait du mal. On cherche l'idéal, on s'attarde sur ce qu'il y a de mal. On tire sur notre amour avec des vraies balles. On décore les nuits de nos désaccords. On joue encore à qui a raison, qui a tort. On cherche des vérités comme on cherche de l'or.
Je veux qu'on oublie et qu'on efface. Je veux qu'on se laisse, qu'on s'y fasse. Y a pas d'issue, juste une impasse. On est déjà trop loin pour revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça quand on sait que c'est mort? Qu'on se fait des coups bas, qu'on se force à tort. Qu'est-ce qu'on croit quand on se fait croire qu'on s'aime encore? Et qu'on se blesse plus fort et on tourne en rond. Et ça fait tourbillon.
D'écouter On se bat de l'artiste Sab qui est mon invité sur M Radio.
Et demain, avec Constance Vercamer, le podcast des artistes de la chanson française de demain.
Alors justement, on va remonter donc en tout premier à ton enfance. Très tôt, tu comprends que l'art, ça va faire partie de ta vie. J'ai cru comprendre que le théâtre, t'adores, le dessin, l'impro et puis bien sûr la musique. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que t'as un tout premier souvenir de musique dans ton enfance?
Je pense que c'est la Star Academy à l'époque que je regardais avec ma mère qui m'a donné un petit peu l'envie de faire de la musique. Et puis le théâtre est venu tout de suite après, où j'ai pris des cours de théâtre. J'ai beaucoup aimé ça. Après, j'ai fait de la guitare.
Ok.
Puis voilà, j'ai continué petit à petit. J'ai appris le piano aussi. J'ai commencé à écrire. Voilà. Je pense que c'est la Star Academy un peu qui a déclenché ce truc-là.
T'as déjà pensé à faire un télécrochet de musique?
Moi, je me sentirais pas complètement à l'aise, tu vois, d'être à la télé avec des caméras 24 heures sur 24. Ouais, je pense que ça me bloquerait un peu. Et du coup, j'admire beaucoup les gens qui sont capables de faire ça, mais je pense que j'en fais pas partie. Donc,
Et même un The Voice ou...
The Voice, ouais, c'est un peu différent du coup, parce qu'on n'est pas filmé tout le temps. Pourquoi pas, mais ça s'est pas présenté et voilà.
Mais si jamais ça se présente, pourquoi pas?
J'exclus rien. Hein.
Oui, bah oui, c'est une opportunité comme une autre.
Voilà, je pense que c'est ça, il faut voir un peu la carrière musicale comme une succession d'opportunités, il faut se fermer à rien.
Alors tu parles justement un petit peu de la caméra et tout, c'est quelque chose avec avec lequel t'es pas trop à l'aise en règle générale, ou tu penses que ça peut venir?
Bah en fait je pense que je suis de plus en plus à l'aise, tu vois, mais c'est un truc que j'ai dû vraiment apprendre un petit peu, parce que c'est toujours bizarre, tu sais, de chanter devant une caméra ou de parler devant une caméra, parce que c'est pas un être humain. Donc il y a eu ce truc là un peu de d'apprentissage de comment appréhender l'image, la caméra et sur sa propre image aussi, tu vois, se regarder derrière, c'est pas forcément facile.
Ah non, je comprends tout à fait.
Voilà, parce qu'on on renvoie quelque chose et tout, et puis s'auto-regarder, c'est pas évident. Donc je pense que c'est un truc que j'ai appris et maintenant franchement ça va mieux.
Bon, bah, et petit à petit, ça ira de mieux en mieux.
C'est ça.
Alors j'ai cru comprendre qu'aussi tu ne faisais pas partie d'une famille musicale, c'est-à-dire que tu n'as pas grandi avec des parents qui faisaient de la guitare, du piano, du chant. Comment ils ont accueilli le fait que voilà, dès toute petite, tu as eu un attrait pour ce genre de passion en fait?
Bah très positivement, du coup moi j'ai vécu avec ma mère.
Ok.
Qui effectivement, alors faisait pas de musique ou quoi, mais elle écoutait beaucoup de musique, elle écoutait beaucoup de Goldman, Balavoine et des artistes comme ça. Donc effectivement on était étrangers à la production musicale, mais il y avait quand même une culture musicale dans la famille. Et en fait ma mère, bah quand je lui ai dit voilà, j'aimerais bien prendre des cours de guitare, bah direct voilà, m'a payé les cours de guitare. Donc c'était quand même, c'était accueilli très positivement.
Et t'as commencé la guitare, t'avais quel âge?
Je crois, je vais pas dire de bêtises, je crois que j'avais 11 ans.
Ok.
Mais je te dis peut-être une grosse bêtise, c'est entre 11 et 12.
Par là, quoi. Ouais, c'est voilà. Vraiment l'entrée du collège où tu t'es dit, allez, je vais me mettre à la guitare. Mais c'est vrai que sinon, tu as appris assez en autodidacte, si j'ai pu lire ça.
Oui, ouais. Le piano, j'ai appris en autodidacte. L'écriture, évidemment, c'est toujours en autodidacte. Parce que je trouve ça intéressant aussi le côté autodidacte, parce que tu vas explorer des choses que tu n'explorais pas forcément avec quelqu'un à côté de toi, tu vois. Et voilà, donc le piano, effectivement, en autodidacte, mais mes bases de guitare m'ont beaucoup servi pour le piano.
Mais du coup, ça a été vraiment les instruments de musique, puis le chant. Au début, ça n'était pas venu tout de suite, le chant.
Ah, le chant, il est venu hyper tardivement, vraiment hyper tardivement, parce que au début, j'écrivais plutôt du slam. Je me refusais un peu à chanter parce que j'avais du mal avec ma voix. Bah, c'est un peu ce qu'on disait, tu vois.
On va en reparler en plus.
L'image. Okay,
d'un petit déclic.
Je ne spoile pas.
Voilà, c'est ça, on va remonter au fur et à mesure. justement, là, on va arriver maintenant à l'âge un petit peu ingrat. L'âge de l'adolescence.
Aïe, aïe, aïe.
Mais c'est aussi le moment où tout se bouscule un petit peu pour toi, parce que tu le dis, tu te mets à écrire en anglais alors que tu ne parles pas anglais. Pourquoi se mettre dans une zone d'inconfort?
Bonne question. Je pense qu'il y a de la pudeur, parce que d'écrire en français, tout le monde comprend ce que tu dis.
Mm-hmm.
En anglais, potentiellement, il y a une partie des gens qui vont rien comprendre. Et en plus de ça, effectivement, j'écrivais en anglais, mais je ne parlais pas un mot d'anglais. Donc, en fait, j'allais chercher des mots dans le dictionnaire.
Mais tu n'étais même pas sûre que toutes les phrases allaient ensemble.
Ça ne voulait rien dire. C'était terrible. Ça ne voulait rien dire. En fait, je prenais des mots dans le dictionnaire, puis je les mettais côte à côte. Mais évidemment, une phrase en anglais, ça ne se fait pas comme ça, dans n'importe quelle langue d'ailleurs. Donc, j'écrivais des textes un peu comme ça. C'était franchement pourri, tu vois. Mais
c'était un exercice au final.
C'était un exercice plus de top line, tu vois, de trouver une mélodie qui est cool.
Et tu les as gardés, ces textes-là? Premiers textes?
Ouais, j'ai gardé les tout premiers textes. Ouais.
Et t'en as fait quoi?
Je les garde parce que je me dis, on sait jamais. Puis j'ai une petite anecdote. Il y a un des textes que j'avais écrit, j'étais en CM2, donc j'étais un peu plus jeune encore. J'avais demandé à mon prof de CM2 de corriger mon...
J'ai un CM2, bravo.
Corriger mon texte. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, j'étais convaincue que oui, ça voulait dire quelque chose et qu'il allait vraiment corriger mon truc bien. Sauf que, évidemment, il n'y avait rien qui allait. Et il s'est quand même arraché la tête pour essayer.
Il s'est investi pour essayer
de corriger le truc. Et donc ça, j'ai ces corrections aussi. Et des fois, je le rouvre et je me dis, c'est drôle quand même.
C'est hyper mignon. Par contre, tu as des profs comme ça qui, même arrivés au collège, t'ont poussé un petit peu dans la musique, dans l'écriture. Parce que parfois, ça peut venir des proches. Mais ça peut aussi venir d'un corps professoral.
Ouais, moi, les profs, ils ont eu une grosse place dans ma vie. Vraiment, ça a été des sources d'inspiration énormes. Peut-être pas pour la musique en tant que telle, mais plus pour la partie écriture, tu vois.
Okay.
J'avais une prof de français au lycée qui m'a énormément marquée. Elle m'a ouvert à des auteurs que je lis encore aujourd'hui. Et elle m'a donné un peu le goût de la lecture et de l'écriture aussi. Donc ouais, je pense que c'est des personnages importants dans des parcours, même si c'est pas directement lié à la musique.
Oui.
Mais par contre, pour l'écriture, y en a beaucoup qui m'ont beaucoup inspiré.
Le français, c'était ton truc?
Le français, c'était grave mon truc. Moi, j'étais en L, littéraire, l'ancien bac L.
Et arrivé donc du coup au collège-lycée, ça a été quoi tes inspirations musicales?
Oula.
Eh oui, on arrive à cette fameuse question. Qui t'a inspiré?
J'ai eu une période groupe de rock.
Ok.
Les Red Hot, ça j'écoutais beaucoup. J'écoutais aussi beaucoup de guitaristes, genre Stevie Ray Vaughan, une petite période un peu blues.
Ok.
Et puis après, j'ai eu une période plus mainstream. J'écoutais les Jonas Brothers quand ils étaient un peu.
Ah oui, là on est vraiment sur.
Bah en fait, pas tant que ça.
Ah ouais ?
Alors effectivement, on dirait qu'on est sur un grand écart, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'eux-mêmes ont une culture musicale qui est proche de celle-là.
C'est vrai.
Et je trouve que du coup, ça m'a amené aussi d'écouter ces artistes un peu mainstream, un peu variété, tu vois, à simplifier mon approche de la musique aussi. Et d'une certaine manière, ça l'a enrichi, paradoxalement, tu vois.
Et il y a un style de musique où tu t'es dit, c'est mort, j'irai jamais dessus ?
Ouais, le métal.
Ok.
J'avoue, le métal, j'ai encore un peu de mal aujourd'hui. Et bon, je pense que je suis pas la seule. Et pourtant, je pense qu'il y a des choses intéressantes à savoir sur le métal. Mais moi, j'avoue, j'ai du mal.
Peut-être un jour. Mais en tout cas,
Comme je te disais, on se ferme à rien.
Oui, c'est ça, on se ferme à rien. Et alors, justement, t'as fait ton premier groupe aussi au collège.
Ouais.
Les Spicy Sweeties.
Oh là là.
Ça a été un gros tournant dans ta vie ?
Quel tournant ? Ouais. C'était avec mes meilleures copines de l'époque. J'en avais une qui faisait un petit peu de guitare.
Ok.
Et moi, je faisais aussi de la guitare, du coup, à ce moment-là. Et on s'est dit, oh, on va écrire une chanson, on va faire un clip. Et je crois que j'ai encore le clip dans mes vieux dossiers.
Mais tout ça, faut tout garder. Faut que tu mettes tout dans une boîte.
Mais c'est pépite. C'est vraiment pépite.
Mais vous avez fait quoi ? Comment s'est formé le groupe ? C'est venu de toi ? C'est commun ?
Je ne saurais pas te dire si c'est venu de moi. Je pense que c'était plutôt commun. En fait, j'avais ma meilleure pote qui habitait juste à côté du collège. Donc, dès qu'on avait une heure de pause, tu vois, on sortait, on allait chez elle. Et c'est venu comme ça, dans sa chambre, on s'est dit, on adorerait chanter une chanson, et le groupe s'est formé comme ça, mais c'est un petit groupe qui a pas duré.
Pas très longtemps, mais vous êtes séparés pourquoi d'ailleurs ?
Parce que moi j'ai continué la musique, mais finalement j'étais un peu la seule à continuer, donc du coup elles sont parties vers d'autres horizons, mais on est toujours très proches aujourd'hui, mais pas pour la musique, quoi.
Et vous avez fait des petites représentations, vous êtes enregistrés, non ? Y a pas de trucs comme ça ?
Pas du tout, on s'est enregistrés, effectivement, on a tourné un petit clip.
Oui, donc le fameux petit clip qui est donc sur ton ordinateur quelque part.
Ouais, ouais. Et je me souviens, la chanson qu'on avait écrite, ça parlait de voyage.
Ok.
J'ai encore les paroles en tête. J'ai encore les paroles en tête.
Pourquoi le voyage ? Parce que ça vous rassemblait ?
Ouais, je pense que ça nous rassemblait. Puis tu sais, à cet âge-là, t'as une envie d'évasion un petit peu, de sortir un peu de ton quotidien, de voir d'autres horizons. Et je pense que c'est ça qui nous liait aussi, nous toutes.
D'où la chanson sur le voyage.
C'est ça.
Alors bon, rapidement, il y a une réalité qui te rattrape. C'est les études.
Ouais.
Alors, bac L, je vais tout citer parce que vraiment il faut. Bac L, master de droit et action publique, master 2 de sociologie et diplôme universitaire de philo. On n'a plus le temps de faire de la musique à ce moment-là.
Effectivement. Je faisais plus trop de musique, je continuais un petit peu à faire du piano, mais j'ai mis un peu ça entre parenthèses et honnêtement, un petit peu à contre-cœur.
Ah, c'était à contre-cœur ?
Un petit peu, ouais. En fait, je ne savais plus trop où me situer. J'avais envie de continuer la musique et en même temps, il y a toujours un truc qui te rattrape de le monde dans lequel on vit, il est difficile. Et si t'as pas de diplôme, on m'a toujours dit, si t'as pas de diplôme, potentiellement tu peux galérer un peu.
C'est ta maman qui t'a poussé un peu à te dire, vas-y, la musique c'est bien, mais ou pas du tout, vraiment ?
Non.
C'est personnel.
C'est vraiment personnel, mais même sur mes études, ma mère, elle a jamais été fait des études, absolument.
Oui, oui.
C'était plus moi qui me suis auto-construit un peu ce schéma-là. Et du coup, effectivement, j'ai mis un petit peu la musique entre parenthèses. Et en vrai, aujourd'hui, je le regrette un peu.
Ah ouais ?
Un petit peu, ouais.
Bah pourquoi ?
Bah parce que je me dis que c'est dommage de faire...
T'as l'impression d'avoir perdu du temps ?
Peut-être un peu, mais en vrai, moi, je suis pas du genre à regretter. Je me dis, si les choses arrivent, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus mûre aussi pour aller au bout de...
T'as appris plein de trucs au
final.
Bah
ouais, c'est ça. Et je regrette pas du tout mes études et tout, mais c'est ce côté avoir vraiment arrêté la musique que je regrette un peu, ouais.
Oui, donc du coup, ça a duré, on va dire, peut-être 4-5 ans.
Ouais, c'est ça,
la mise en pause.
Ouais.
Et puis à un moment, arrivé à l'âge adulte, il y a eu un déclic.
C'est ça.
Chasser le naturel et revient au galop, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Puisque apparemment, c'est lors d'une scène de tremplin, il y a une certaine Léa qui est venue te voir et qui t'a dit « Non mais là, en fait, t'as du talent, il faut que tu chantes. »
Ouais, en fait, l'histoire, c'est que je recommençais à écrire des chansons. Et donc, il y en avait une qui était slamée.
Ok.
Vraiment pas de chant. Et je vois sur Instagram ce concours qui existe. En fait, à ce moment-là, pour te dire, je ne savais même pas que c'était un concours.
Tu t'es inscrite comme ça ?
Je me suis inscrite avec l'idée de faire une scène.
Okay.
Moi, vraiment, mon objectif, c'était faire une scène, tester ma chanson. Mais la dimension concours, franchement, je m'en foutais un peu à ce moment-là, quoi.
Okay.
Et d'ailleurs, oui, je ne savais même pas que c'était vraiment un concours. Je l'ai compris quand j'étais là-bas. Et du coup, j'ai gagné ce concours et j'ai été jusqu'en finale. Et j'ai gagné la finale. Et à la finale, il y avait donc Léa.
D'accord. Et donc Léa, à la fin, elle est venue te voir et elle t'a dit, allez là, il faut se lancer, quoi.
Ouais, c'est ça. Et elle m'a dit, chante surtout, parce que du coup, moi, je chantais pas à ce moment-là.
Oui, c'était du slam surtout, du coup.
Voilà.
Et avec tes propres textes.
Avec mes propres textes, ouais. Et elle m'a dit, ce serait bien que tu chantes, fais des refrains, chanter, essaye, tâtonne. Et c'était le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné, quoi, clairement.
C'était une amie à toi ?
Bah non, non, je la connaissais.
Tu la connaissais pas du tout?
Pas du tout, en fait, elle était dans le jury de ce concours-là. Et bah, je crois qu'elle a bien aimé, du coup, ma prestation à ce moment-là. Et après, elle m'a pris en coaching pour justement essayer de travailler le chant. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, bah, tu devrais vraiment chanter, écrire des refrains, chanter.
Et donc là, tu t'es dit, allez, là, pour le coup, tout ce que j'ai fait en études, on met en stop, j'ai vraiment envie de me consacrer à la musique.
Ben non, toujours pas.
Non, toujours pas. Alors toujours qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, j'ai continué mes études, j'ai repris la musique à côté.
Ok.
Parce que je embarquais dans le truc, je me dis je vais pas arrêter. Enfin, voilà. Et puis mine de rien, faut quand même une source de revenus à ce moment-là. J'ai un
oui. À payer. C'est à dire qu'il faut manger aussi.
Ben voilà. Donc non, j'ai continué mes études en parallèle de la musique. Et, okay. Mais ça, j'ai bien aimé parce que ça donne une certaine stabilité en fait. D'avoir quand même un truc où t'es sûr de, ouais, d'avoir une source de revenus, un travail quoi, plus classique.
Tu voulais allier les deux au final?
Ouais, à ce moment-là, je voulais allier les deux, puis il n'y avait pas encore d'enjeux professionnels sur la musique.
Ouais, tout s'est fait petit à petit, tout s'est fait très naturellement.
Ouais, c'était très fluide, vraiment très fluide.
Tu t'es pas forcé quoi?
Du tout.
Et tu t'es pas servi des réseaux sociaux au début pour te dire, allez, je vois pas mal de gens qui mettent des trucs, moi aussi j'ai envie de le faire.
Ouais, si. Bah, en fait, j'ai commencé à poster un peu des covers.
Ok.
Et après, j'ai posté plutôt des compos.
Ok.
Et j'ai commencé à sortir mes propres compos sur les plateformes à ce moment-là. Et puis, après, c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré du coup Marc, mon producteur. Mm-hmm. Et on a commencé à travailler ensemble. Donc après, j'ai signé dans le label. Et donc là, les choses ont commencé professionnellement, on va dire.
Donc la force des réseaux, mine de rien, ça a été quand même un certain appui.
Ah bah ouais. Clairement, bah même pour de constituer une communauté, des gens qui te suivent, qui suivent ton travail, c'est hyper essentiel aujourd'hui, clairement. Puis ça permet d'avoir un lien direct avec les gens. Moi, j'aime beaucoup quand on peut discuter avec les gens directement, parce que, mine de rien, les occasions de concert, elles peuvent être plus ou moins rares. En tout cas, au début de carrière, c'est compliqué d'avoir beaucoup de dates. Donc, c'est compliqué de rencontrer les gens qui nous suivent. Et les réseaux sociaux, ça permet un petit peu ça, de créer un lien plus direct et plus intime presque avec les gens.
Et t'as fait un super truc sur les réseaux sociaux, on en reparlera juste après. J'ai adoré le concept, vraiment continue à faire ça parce que j'ai trouvé ça génial. Mais on va en reparler. Alors là, il y a un premier EP qui est attendu pour février 2025. Mais on a pu te découvrir maintenant il y a quelques mois grâce à une reprise de 6 milliards d'Hussar. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Hussar.
Hussar, vraiment. Parce que comme le R est en majuscule.
Oui, c'est vrai, ça part de la confusion. Mais voilà. Ouais, c'est
et je n'ai pas réussi à trouver. Mais Hussar, ok. Pourquoi ce choix?
Le texte de la chanson, c'est une chanson qui m'a bouleversée, que j'écoutais depuis un petit moment. Bah, en fait, je pense que je l'ai écoutée dès qu'elle est sortie.
Okay.
Et je me suis jamais lassée de cette chanson et j'ai trouvé, tu vois, l'alliance musicale entre le piano, la composition, la partition et le texte magnifique. Enfin, je trouve qu'il a une façon de parler d'amour qui est assez,
assez
exceptionnelle.
Incroyable.
Ouais, assez exceptionnelle. Et du coup, bah. L'idée, c'était d'effectivement publier, avant de sortir mes propres chansons, de sortir des chansons des autres, mais un peu de les amener dans mon univers.
Comme ce que tu faisais sur les réseaux, mais au final, tu t'es dit, là, je vais un petit peu le professionnaliser, quoi.
C'est ça.
Okay.
Et donc, cette chanson, c'était une évidence. Et on s'est dit, bah, c'est un piano-voix, donc nous, on a peut-être envie de le transformer ailleurs, sans travestir la chanson.
Mais elle est un peu plus punchy.
Mais elle est un petit peu plus punchy, elle est un peu plus... parce qu'on on dit un peu dans le jargon qu'elle est un peu plus prodée. C'est-à-dire que l'instru est un peu plus chargé et elle est un peu plus pop-rock.
Ok, mais qu'est-ce qui te représente d'ailleurs toi maintenant, aujourd'hui?
Comment
tu te décrirais en termes de style musical?
Je dirais que je suis entre la variété, la pop, le rock. Je pense que je suis un peu entre tout ça. Voilà.
Et là, en ce moment, tu défends ton nouveau single qui s'appelle « On se bat ».
Exactement.
Il parle de quoi?
Alors, « On se bat », ça parle d'une relation toxique.
Ah, les relations toxiques
entre deux personnes et cette difficulté un petit peu. Enfin, moi, je suis vachement confrontée à ça. J'ai du mal, tu sais, à quitter les gens. Et donc, c'est l'idée qu'on est dans une relation. On sait que c'est pas bon pour nous, mais on tourne un peu en rond dans cette relation. On s'accroche à des petits détails, à des petites choses qui pourraient faire que potentiellement ça marche, alors qu'au fond, on est convaincu que non, ça ne marchera pas. Mais on y va quand même.
Ça sent l'autobiographie ou...
Ah bah ouais. Bah de toute façon. Enfin, tous les textes qu'on écrit ou que j'écris en l'occurrence sont tirés d'expériences personnelles. Alors après, tu peux effectivement déformer un petit peu la réalité, mais en l'occurrence, c'est plutôt carrément autobiographique, ouais.
Donc c'est une chanson qui peut parler quand même à énormément de monde. Et d'ailleurs, la manière dont tu l'as défendue, c'est là où j'en reviens à ce que je disais que je trouvais génial. Tu es allé dans la rue.
Oui.
Tu as pris ton casque. Tu as pris ton téléphone. Tu as posé le casque sur la tête des gens et tu as dit, écoute.
Oui.
Et ça, c'est fantastique. Parce que après, t'as directement un retour de gens, en fait, déjà et d'une, qui viennent de tous les univers. Tu sais pas forcément ce qu'ils en pensent. Bah, d'ailleurs, on le voit dans la vidéo, il y a des gens qui sont extrêmement émus, comme il y en a d'autres qui font bon, bah, voilà. Comment ça t'est venu, cette idée ?
En fait, c'est toujours mon idée que moi, j'ai envie d'être proche des gens. Vraiment, j'ai envie de. Bah, j'ai envie d'avoir leur retour, même s'ils sont négatifs, et j'ai envie de comprendre pourquoi ils sont négatifs.
Okay.
Et s'ils sont positifs, bah, j'ai envie de l'entendre aussi. Et en fait, c'est toujours cette histoire de rencontrer les gens. Et je trouve que la musique, ça permet vraiment de rencontrer les gens, et dans toute leur profondeur aussi. Et ça, bah, ça permet ça. Je me suis dit, bah, y a des gens, ils sont au mieux de leur journée. Potentiellement, ils sont en pause déj. Ils ont eu une journée de travail difficile. Bon, bah, on va leur offrir, je sais pas, 3-4 minutes de discussion où je leur fais écouter une chanson. Et bah voilà, ils me disent ce qu'ils en pensent et moi j'accueille ça avec plaisir dans tous les cas quoi.
Et même si parfois le commentaire peut être rude, j'imagine. Même dans ces moments-là, c'est pas inconfortable.
Bah en fait, honnêtement, hein, c'est vraiment vrai ce que je te dis. J'ai jamais eu de commentaire vraiment rude.
Ok.
Et même quand les gens sont plutôt critiques, ils sont très bienveillants.
Ok.
Bon, il y en a qui me disent bah c'est pas du tout ce que j'écoute. Mais ils me le disent d'une manière, je peux pas mal le prendre en fait. Puis dans tous les cas, quand on fait ça, bah faut s'attendre hein, à avoir potentiellement des remarques plus ou moins dures. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé, donc touchons du bois pour que ça continue.
Oui, bien sûr, bah surtout je te le souhaite et que le meilleur. Tu as aussi écrit une petite phrase sur ton EP, la lune dans un œil et le soleil dans l'autre.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah en fait, on cherchait un petit peu une phrase qui me représente et cette phrase elle vient pas de moi.
Ok.
J'ai demandé à mes amis très proches s'ils avaient des idées. Et c'est cette phrase-là qui est sortie parce que, bah en fait, je pense qu'il y a une espèce de dualité ou d'ambivalence en moi, y compris dans les textes, où bah, j'écris peut-être des choses assez dures, mais par contre, c'est jamais complètement deep, c'est jamais complètement déprimant. Moi, je tiens toujours.
Il y a toujours de l'espoir.
Ouais, il y a toujours de l'espoir. Et toujours, c'est plus une forme de mélancolie, mais pas malheureuse, tu vois. Et je voulais un petit peu bah, retranscrire ça sur mon profil, que les gens sachent un peu direct à qui ils ont affaire. Et je trouvais ça joli. Et après, c'est vrai que dans mes textes, je parle beaucoup des éléments naturels, genre okay. La mer, le soleil.
Ça t'inspire ?
Bah, je sais pas pourquoi, mais en vrai, oui, ça revient. Et même sans que je m'en rende compte, tu vois, quand je regarde mes textes, je me dis, bah ah oui, il y a ça qui revient beaucoup. Et la lune, notamment, ou le. Ouais, des périodes de temps, genre minuit, tu vois, des,
okay.
des trucs comme
et
ça.
Et quand t'écris et tu composes, pourtant, tu le fais où ?
Je le fais où je le fais chez moi,
okay.
à des heures en fait plutôt raisonnables, tu vois. Mais, okay.
Tu n'es pas du style à partir à la mer à 3h du matin pour aller écrire un texte ?
Bah non, pas du tout, parce que bah, je peux pas.
D'accord.
Après, si je pouvais, pourquoi pas, tu vois, mais non, ça se cantonne au mur de chez moi.
Mais c'est déjà pas mal.
Mais c'est déjà pas mal, ouais.
Et tu te souviens de ta toute première scène ?
Bah ma toute première scène, c'était Plus de talent, donc c'est la scène dont on a parlé okay.
D'accord,
tout à l'heure.
C'était vraiment celle-là, la toute première.
Ouais, et ça c'est... C'était horrible. Enfin, en fait,
okay,
c'était.
Ok, t'as pas passé un bon moment.
Bah. En fait, si, après. Mais sur le moment, je me suis décomposée. J'avais. C'est trop bizarre, hein, mais j'avais genre l'estomac qui tremblait. Je ouais. sais même pas si c'est possible. Mais j'étais terrifiée, vraiment pétrifiée. Pourtant, c'était une petite scène. Mais à ce moment-là, j'avais pas du tout de notion de gestion du stress.
Ok. Donc, et on t'a appris
Ouais, bah, ça s'apprend. Ouais, je pense que ça s'apprend avec de la technique. Après, tu changes jamais ce que t'es. Moi, je sais que je suis quelqu'un. Je peux déverser un peu mes émotions parfois.
Okay.
Donc ça peut m'auto-submerger, tu vois. Donc ça peut arriver encore. Mais après, tu as la technique vocale en tant que telle pour
t'apprendre à
contenir un peu, à te calmer.
Et voilà. Ça, tu l'as appris toute seule ou c'est quelqu'un qui t'a un petit peu guidée ?
J'ai eu un super prof
okay.
qui s'appelle Bichente, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée pour ça, justement, pour la gestion de mes émotions, de mon souffle. Et j'ai eu un deuxième prof qui s'appelle Damien Silver qui m'a okay. donné aussi des éléments techniques. Donc j'étais super bien entourée pour ça.
Oui, mine de rien, en fait, c'est quand même très professionnel pour tout ce que tu fais. Tout est pensé, aussi bien dans tes productions que dans ta gestion, que tes scènes, puisque j'ai vu aussi que tu seras le 7 décembre à l'Avant-Poste.
Oui.
Et ça, t'as hâte maintenant ?
Ah ouais, bah oui, j'ai super hâte. Bah, de toute façon, les concerts, c'est ce que je préfère. Hein. C'est vraiment des moments okay. hyper.
T'aimes la scène.
Ah oui,
c'est
j'aime
okay
la scène.
Là-dessus.
Bah oui, oui. Autant au départ, c'était compliqué. Maintenant, c'est ce que je préfère.
Ok, bah justement, on va parler de demain. Tu te vois où dans 10 ans ?
Ouh là là.
Eh ouais, la fameuse question un peu vache.
Dans 10 ans, en vrai, j'espère avoir sorti quelques albums.
Ok.
J'espère avoir collaboré avec des artistes parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Eh bah ça tombe bien parce que je vais te demander avec qui.
J'adorerais collaborer avec Louane.
Ok.
Avec Joseph Kamel. J'aime beaucoup la façon dont il écrit. Il y a plein de jeunes artistes émergents, Cobalt, avec qui j'aimerais beaucoup travailler, et Pierre Demar.
Ok, tu me cites vraiment beaucoup de nouvelles scènes. Hein.
Oui, bah parce que en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je les porte beaucoup dans mon cœur. C'est un peu, peut-être je m'identifie d'une certaine manière, parce que je me dis, bah, c'est des gens quoi, qui commencent plus ou moins, il y en a quand même bien, qui sont bien installés. J'ai l'âge pour avoir suivi leur parcours,
okay.
Pour m'être identifié à eux. Et puis, je trouve qu'ils amènent quelque chose à la chanson française, et voilà, je les trouve très riches, quoi.
Et t'as déjà essayé de les contacter sur les réseaux ?
Ouais, bah, notamment grâce au cover qu'on avait fait sur, sur Instagram. J'ai pu parler un petit peu avec Pierre Demar, qui avait beaucoup aimé la cover qu'on avait faite. Voilà, et Cobalt, je le connais aussi. Donc
ouais. T'as des retours et c'est des choses qui peuvent arriver ?
C'est des choses qui peuvent arriver et en vrai, je me le souhaite, vraiment.
Et ton rêve le plus fou ?
Mon rêve le plus fou, ce serait, je pense, un petit Bercy.
Ça serait sympa.
Ça serait très sympa.
Et par exemple, là... Si on disait que tu pouvais prendre une personnalité, qu'elle soit vivante ou décédée, ton ultime rêve avec qui collaborer, pourquoi pas sur tout un album, un duo, vraiment une personne, mais tu peux choisir qui tu veux.
Balavoine.
Ah oui.
Direct. Bah, c'est...
Souvenir d'enfance ?
C'est souvenir d'enfance, mais c'est toujours présent. C'est, Balavoine, c'est... j'écoute encore et c'est intemporel en fait. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup quand j'écris et j'aime aussi beaucoup son sens de l'engagement. Enfin ouais, Balavoine. Et j'aurais adoré pouvoir le rencontrer, vraiment.
Oui.
Mais bon.
Là, c'est
pas possible,
un petit peu foutu, là.
Difficile.
Et pour les prochaines semaines, pour terminer, on peut te souhaiter quoi ?
Bah, on peut me souhaiter un bon concert et on peut me souhaiter une bonne sortie d'EP.
Oui, d'ailleurs, on n'a pas encore la date précise.
Ce sera tout début 2024, au mois de janvier.
Ok, début 2025.
Oui, pardon, 2023.
Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être passé me voir.
Ben, merci à toi.
J'espère que t'as passé un bon moment.
Ben, grave, j'ai
Et
kiffé.
Puis bah, on se reverra pour la sortie de l'album maintenant.
Ouais, ça marche. Merci beaucoup.
Au revoir.
Et demain, avec Constance Vercamer, le podcast des artistes de la chanson française de demain.